L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'AJT du local sur l'autre radio. Bonjour Claire, comment ça va ?
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Écoute, un peu frais ce matin, mais ensoleillé, donc ça fait plaisir pour un vendredi.
Exactement, avant le week-end, ça fait du bien. Et aujourd'hui, ce week-end, il y a aussi, donc bien sûr, le week-end pas pour tout le monde, puisqu'il y a les commerces qui travaillent, mais il y a aussi le Téléthon, ce vendredi et samedi, en Mayenne et partout en France. Une édition particulière, forcément, à cause des conditions sanitaires, mais les bénévoles se sont organisés, vous l'entendrez. On fait aussi aujourd'hui un zoom sur une association mayennaise qui poursuit ses actions, encore plus importante peut-être en ce moment, la MAV, qui accompagne les gens du voyage dans le département. Et puis en fin d'émission, nous partons à l'EHPAD de Saint-Aignan-sur-Raux pour la chronique Service Civique. Antonin Marotte est animateur, et pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, pas de grand changement dans sa mission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. La région connaît un plateau dans l'évolution de l'épidémie.
Depuis 2-3 jours en Pays de la Loire, le nombre de cas de Covid diminue moins vite selon l'Agence régionale de santé. On observe aussi des disparités selon les départements. En Mayenne, il y a encore 93,3 cas pour 100 000 habitants et 9,4% des tests sont positifs. Alors pour éviter une troisième vague après les fêtes, l'ARS recommande de maintenir les gestes barrières entre proches, de limiter le nombre de personnes et de ne pas multiplier les rassemblements.
Ce 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, les pompiers signent une convention au collège Sacré-Cœur de Goron.
Objectif affiché, favoriser l'engagement citoyen des jeunes pour les rendre acteurs de leur sécurité. Cette section cadet et cadette de la sécurité civile est une première au collège Sacré-Cœur de Goron. Donc une convention qui a été signée ce matin. Et puis ce matin aussi, si vous avez vu les pompiers autour du théâtre de Laval, pas de panique. Ils sont en exercice dans le cadre de leur formation chef d'agrès tout engin.
Nouvelle manifestation organisée par la CGT contre le chômage et la précarité.
Le rassemblement est prévu demain samedi à 10h30, place du 11 novembre à Laval. Le syndicat appelle l'ensemble des salariés, jeunes, demandeurs d'emploi et retraités à se mobiliser pour le droit au travail et à la protection sociale. Alors que les plans de licenciement se multiplient selon la CGT, d'autres choix sont possibles.
Et si le musée d'Orsay prenait le nom de Valéry Giscard d'Estaing ?
C'est en tout cas la proposition du député du Nord-Mayenne Yannick Favennec. Il va déposer une proposition de résolution sur le bureau de l'Assemblée nationale en ce sens. C'est évidemment pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé de transformer l'ancienne gare en musée dédié à l'art de la seconde moitié du 19e siècle.
Les cars régionaux circulent à nouveau normalement le week-end.
Le réseau de cars régionaux Aléop avait réduit son offre à 50% le week-end depuis le 12 novembre, mais le service est rétabli à 100% dès demain. Tous les horaires sont disponibles sur le site aleop.paysdelaloire.fr.
Les nouveaux formulaires pour le fonds de solidarité sont désormais accessibles.
Dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier prochain. Sont éligibles les entreprises de moins de 50 salariés qui ont été contraints à fermer leurs portes ou qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires.
Pas de chocolat ou de vin chaud lors des illuminations de Noël à Laval.
Et oui, ces boissons claires seront à emporter, histoire d'éviter les attroupements. Mais les churros, place du 11 novembre à Laval, c'est autorisé. Par contre, s'étonne Éric Joannin, le président de l'UMI 53, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Mayenne. Il y a de quoi se poser des questions et ne pas comprendre, dit-il. Il espérait une tolérance pour les fêtes, pour l'ouverture donc des bars et restaurants. Le syndicat, en tout cas, compte se mobiliser et se rapprocher de la préfecture.
Et le foot, les tangos veulent rester dans une bonne dynamique.
Après leur victoire contre Sète le week-end dernier, le Stade Lavallois se déplace à Concarneau ce soir, une équipe proche au classement des Lavallois. Début de la rencontre prévu à 20h.
Et sur la route du Vendée Globe, Fabrice Amédéo bloqué par l'anticyclone de Sainte-Hélène.
Le skipper de Newrest, Arrêt Fenêtre, a en ligne de mire un nouveau groupe de 4 concurrents qui, eux, ont réussi à se dépêtrer de l'anticyclone de Sainte-Hélène. À son tour maintenant de l'affronter alors qu'il est en 24e position. Maxime Sorel, lui, est déjà dans l'océan Indien. Il occupe la 11e place. Et puis vendredi, vous le savez, c'est la sortie de votre hebdomadaire Le Haut en Joue qui met cette semaine à la une les voitures radars privées qui arrivent dans le Maine-et-Loire. Elles sont déjà en service depuis quelques mois en Mayenne. Et donc l'objectif bien sûr affiché, c'est de faire baisser la mortalité. Ces voitures seront en service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles sont donc lancées dans le Maine-et-Loire depuis quelques jours. Et puis aussi, votre hebdomadaire traite forcément du vaccin qui sera un peu mayennais, le vaccin contre la Covid, grâce à l'entreprise Carpenter, qui est basée à Cran, entreprise américaine, qui participe un peu à la chaîne de production du vaccin Pfizer, qui sera commercialisé en Europe, en fabriquant notamment des mousses thermiques autocollantes. Je vous en dis pas plus, l'article est à lire en page 2 de votre hebdomadaire. Et puis aussi, un sujet que nous avions nous aussi traité il y a quelques jours, à Château-Gontier, en tout cas sur le pays de Château-Gontier, un vélo cargo pour les déchets, un vélo cargo qui organise donc 3 tournées par semaine, qui récolte les déchets alimentaires des cantines de plusieurs écoles, mais aussi du FJT et des lycées de Château-Gontier, pour ensuite recycler ces déchets, puisqu'ils sont emmenés au méthaniseur du pays de Château-Gontier. Ce vendredi, c'est aussi le coup d'envoi du Téléthon, 2 jours pour se mobiliser et donner pour les myopathies et maladies rares. Habituellement, 43% des sommes récoltées provenaient des actions sur le terrain, comme la vente de crêpes, des événements sportifs ou autres. Compliqué cette année forcément à cause de la Covid, mais Micheline Van Duyck, la coordinatrice départementale pour l'AFM Téléthon en Mayenne, ne perd pas espoir.
Il faut savoir que la Mayenne, sur ses animations, vente de crêpes, balles, tout ce qu'on veut tous les ans, collecte quand même 170 000 euros rien que pour le département de la Mayenne, uniquement sur ces animations qui sont faites sur le terrain. Donc pour ça, en Mayenne, on a quand même décidé de se mobiliser et on compte bien sur tous les Mayennais pour nous suivre. Comme on n'a pas grand-chose que les moyens, on va dire, informatiques, on a créé une e-collecte, c'est-à-dire une collecte sur Internet, attachée à l'AFM Téléthon, mais représentant la Mayenne. Alors, il permet quoi ? Ben, il permet déjà d'alimenter tout ce qui est recherche. Hein. En ce moment, il y a 13 enfants qui ont eu ce médicament, cette injection unique, une injection unique qui permet à ces enfants qui ne marchaient pas, qui ne se mouvaient plus du tout, d'être un petit peu comme un enfant normal. Le premier est le petit Yassine, qui est ce petit garçon que vous voyez avec sa maman sur les photos, sur les affiches qu'on a néanmoins dans quelques endroits. Ce petit garçon, en janvier 2019, il a eu cette injection unique. Donc, ce petit garçon, il avait 9 mois, il ne bougeait plus. Maintenant, il arrive à lancer un ballon tout seul. Il arrive à tenir sa tasse, à manger tout seul. Donc, c'est extraordinaire. Ils sont 13 à avoir eu ce traitement à l'heure actuelle. Effectivement, tout le monde n'en bénéficie pas. Il y a encore des recherches à faire. On ne guérit pas tout le monde. On ne connaît pas toutes ces maladies, hein, puisqu'il y en a entre 6 et 8 000 de ces maladies orphelines. Mais bon, la recherche a quand même besoin du soutien de tout le monde. Et on en a tous besoin. Parce que même si on cherche pour ces maladies rares, on a quand même des découvertes qui servent pour les maladies cardiaques, pour les maladies des yeux. La DMLA, si on arrive à avoir un traitement, c'est un petit peu grâce à certaines recherches de l'AFM. Donc voilà.
La collecte en ligne est accessible sur le site d'AFM Téléthon en tapant dans votre barre de recherche « Trop trop fort la Mayenne », un des slogans cette année du Téléthon. Parmi les rares actions maintenues dans le département, il y a 3 points de vente en drive chez des traiteurs, mais c'était sur réservation, et un défi sportif ce week-end à l'Aubrière. Des stands seront aussi installés toute la journée ce vendredi et lundi prochain à Leclerc à Château-Gontier, mais aussi pendant le marché castro-gontérien les 10 et 17 décembre prochains. L'association mayennaise d'action auprès des gens du voyage reste très active malgré la crise sanitaire, en continuant notamment l'accompagnement scolaire dans les écoles. On en parle dans 3 minutes, juste après avoir écouté Dans le noir de Junior.
Ressemble à passer le temps à attendre le tomber de la nuit.
auditeurs sur l'autre radio, vous écoutez toujours l'Agité du local. Et on fait un zoom aujourd'hui sur une association mayonnaise basée à Saint-Berthevin. Il s'agit de l'AMAV, l'association mayonnaise d'action auprès des gens du voyage. En 54 ans d'existence, elle s'est bien implantée dans le département et exerce des missions essentielles d'accompagnement et de lutte contre les discriminations. Présentation complète assurée par Fernand Grangier, c'est le nouveau président de l'AMAV.
C'est une association qui existe depuis 66, donc on va pas dire la première association en France, mais certainement dans les premières, hein, qui avait pour but de gérer l'aire d'accueil de la Genève, première aire d'accueil des gens de voyage en France quand même. Les missions ont évolué, hein, donc dans le cadre d'agrément avec le département de la CAF, donc il y a eu domiciliation au service courrier, hein, 320 familles qui élisent et qui font venir leur courrier au quotidien. Alors 320 familles, ça veut dire monsieur, madame et tous les enfants qui vont avec, qui, tant qu'ils ne sont pas mariés, font partie de la famille. Hein. Deux centres sociaux, hein, donc un centre social Laval Agglomération et un centre social départemental, hein, qui est agréé par la CAF, qui intervient sur les 8 aires d'accueil en Mayenne. Alors, il y en a une à Château-Gontier, une à Laval, une à Changé, une à Saint-Berthevin, une à Cran, une à Évron, une à Mayenne, une à Ernée. Je crois que j'ai dû faire le tour. Alors, le département est plutôt bien doté. Alors, il y aurait des petits aménagements ou des locaux qui seraient souhaitables. Après ça, ça va être en discussion. Le schéma départemental est en réécriture. On travaille avec la préfecture sur la réécriture du schéma départemental. En tant qu'on est partenaire. Hein, donc, voilà, ça sera abordé. Mais ce ne sont que des préconisations. Après, nous, on n'est pas gestionnaire, on n'est pas faiseur ni donneur d'ordre. Hein, mais nous, on ne peut que de mettre les gens en relation, faciliter la réflexion et tout ça, et mettre aussi que les intéressés, puisque si c'est pour les gens du voyage, qu'on les invite aussi à créer leur espace de vie. Et non qu'on fasse à leur place sans leur demander leur avis. Donc les missions principales de l'AMAF, c'est améliorer l'accueil et la qualité de vie des familles du voyage séjournant en Mayenne, promouvoir l'insertion, l'autonomie et la citoyenneté des gens du voyage, développer l'accès aux droits et aux services publics, lutter contre les discriminations. La définition pour nous des gens du voyage, et enfin on s'appuie aussi sur des textes, c'est citoyen français dont l'habitat principal est la caravane. Quand on dit caravane, c'est résidence mobile terrestre. Hein, itinérant ou non, on peut vivre dans une caravane et ne pas bouger de son terrain. Hein, parce qu'un certain nombre de gens qui sont de culture gens du voyage, en Mayenne, sont sur des terrains privés, travaillent dans des entreprises locales, ou leur propre entreprise, ont créé leur propre entreprise. Ce sont des gens du voyage, mais ce n'est pas pour ça qu'ils voyagent.
L'association compte 10 salariés et environ 25 bénévoles qui exercent différentes missions.
Dans le cadre de la scolarisation, hein, donc on fait de l'accompagnement scolaire, dans le cadre de l'insertion, puisque l'AMAV est mandatée par le département pour les dossiers RSA, hein, dans le cadre de suivi de micro-entreprise aussi. Pour certains, il y a le suivi de la micro-entreprise, c'est dans le cadre du RSA. Pour d'autres, c'est de leur fait, ils cotisent pour qu'on les aide à remplir leurs papiers, à faire les démarches administratives et tout ça. Hein. Alors, on ne fait pas leur place, mais on les aide à devenir autonomes. Enfin, le but de l'association, quelque part, ça serait de disparaître. Mais on sait très bien que la société évolue, donc l'association évolue et les besoins. Et il y a toujours des gens qui sont un peu à la traîne, enfin, qui ont du mal avec les évolutions, mais c'est humain. Oui, on est des délégataires du service public parce que les services publics, tels qu'ils sont organisés, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Ils accueillent dans leurs bureaux, ils accueillent dans les structures administratives les personnes. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas dans ces structures parce qu'elles ont la crainte, elles n'ont peur d'être mal reçues ou elles ont peur du regard qu'on va porter sur elles. Alors que nous, ben, on fait le lien entre ce public-là et ces administrations-là, où carrément les administrations nous délèguent le service. C'est le cas du RSA. Le département délègue à l'association la réalisation des contrats et le suivi qui va avec. On est le premier contact, on est la passerelle, on est le lien avec ces structures-là. Alors l'accompagnement scolaire, c'est un animateur, un salarié de la MAV, ou des salariés de la MAV qui se déplacent dans les écoles, qui avec les instituts locaux font le lien avec les enfants et l'instituteur local pour du soutien scolaire.
Claire a justement rencontré il y a quelques jours Nathalie Houdaillé, animatrice sociale qui commençait une session de travail à l'école primaire Saint-Exupéry à Laval. Elle définit les objectifs de cet accompagnement particulier.
Les accompagner dans leurs devoirs et les aider au mieux, les aider à se positionner dans leur statut d'élève pour mieux appréhender les apprentissages, les accompagner simplement là où parfois ils n'en ont pas toujours la possibilité chez eux. Les valoriser parce que souvent on constate une estime de soi un peu en baisse. On n'est pas là pour faire la classe après la classe. Oui, on les aide dans les devoirs, après le temps d'aide aux devoirs, un petit temps d'ouverture culturelle. Ça peut être fait de différentes façons. Ça va être, on va pouvoir faire des jeux de société, on va pouvoir explorer des découvertes artistiques, favoriser la créativité, l'imagination, pour développer des compétences autres que les compétences purement scolaires et... toujours dans l'idée de se trouver et de valoriser les savoir-faire des enfants. Il y a quelques temps, on avait plus d'enfants ici à l'école Saint-Exupéry. Là, ce soir, on se retrouve avec 3 enfants suite au départ d'une famille. Nous aussi, c'est notre rôle de rappeler que l'école reste obligatoire. Et puis surtout, on a mis en avant qu'il fallait qu'ils vivent leur vie d'enfant, leur vie d'écolier, qu'ils puissent, dans ce contexte, poursuivre leur vie d'enfant. Ce dispositif-là d'accompagnement peut permettre de faire plus facilement le lien entre l'école et les familles. Donc, je sais que parfois, les enseignants peuvent passer par nous pour transmettre des messages. Quand il y a le discours de l'école, le discours de la MAF qui concorde, les familles vont peut-être plus facilement s'engager.
Maintenant, ça va être facile. Compte sur ses doigts.
J'apprends mes devoirs. Quand on a fini, souvent on fait des jeux de société ou des petits dessins.
On a la chance d'avoir cette salle à disposition. Donc avec des tables, le matériel. Alors nous, on a peur du matériel, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans une salle de classe typique. Donc ça, c'est important. De faire un peu la coupure quand même. Donc on s'est mis en lien avec la directrice de l'école et pour voir comment, dans quelles conditions on pouvait faire l'accompagnement scolaire.
Au micro de Claire, la directrice de l'école justement, Lucille Laurence, explique comment se passe le lien entre l'association et l'école.
On a pas mal de fratries qui sont inscrites à l'année sur l'école, donc qui passent pour des fois une semaine, 2 semaines ou plusieurs mois. On a des familles qui sont là depuis la rentrée de septembre. Quand elles partent en voyage, soit les familles nous appellent pour dire on revient à telle date, ou souvent, le plus souvent, c'est la MAF qui nous prévient. Donc elle fait vraiment le lien entre les familles et l'école. Il y a beaucoup de bénévoles, c'est une chance d'avoir ça sur la Mayenne. Une chance pour les enfants du voyage, les familles du voyage et puis les écoles. Je pense que sans la MAF, des fois, nous, en tant qu'école, on serait peut-être en difficulté pour bien accueillir certaines familles. Des fois, on n'arrive pas à joindre certaines familles et la MAF peut être un allié vraiment bénéfique, quoi.
Pendant le premier confinement, pas moins de 115 familles ont été accompagnées par la MAV en Mayenne, tient à souligner Fernand Grangier, le président de l'association.
C'est là aussi où on a besoin de bénévoles, là, des fois aussi pour avoir un coup de main local. On est toujours à la recherche et preneur de gens qui veulent bien... donner un peu de leur temps pour accompagner des enfants ou des adultes aussi, pour les aider à retrouver des bases, qui souhaitent réacquérir des bases pour lutter contre illettristes, quoi, qui veulent réapprendre à lire, à écrire, pour gagner de l'autonomie dans leur papier, quoi. Ne serait-ce que des jeunes qui ont des difficultés pour passer le permis de conduire. C'est tout bête, mais maintenant, faut lire regarder la diapo, lire la question, tout ça. Bah, ça peut être simplement s'exercer, s'entraîner à lire des diapos pour être plus à l'aise le jour du permis. Ça peut être ça. L'équipe a besoin d'être épaulée, et donc des petits soutiens sont toujours bienvenus. Nous aider à la réflexion sur le mieux vivre ensemble, comme on dit. Combattre un petit peu l'idée du voleur de poule. Beaucoup de voyageurs vendent de la prestation à domicile, en démarchant à domicile. Il y a un certain nombre de gens, de sédentaires, qui ont, comme on dit, la phobie du camion blanc maintenant. Les voyageurs, en règle générale, des véhicules propres et puis blancs, puis les fourgons. On a vu des camions blancs, c'est des voyageurs. Il y a des portes qui se ferment. Dès qu'ils frappent à la porte, non, on n'a besoin de rien, alors que, ils sont aussi des professionnels et ils font du bon travail. Même à l'école. Alors, moi maintenant, l'école, ça s'est démocratisé, hein, quand même. Ça. Moi, j'ai travaillé 10 ans à la MAV, il y a 20 ans de ça. Je vois l'évolution. Par rapport à la scolarisation et tout ça, il y a eu un pas énorme. Maintenant, il y a des jeunes qui vont au collège. Il y a 25 ans, j'en connaissais un ou deux, mais dans des familles qui étaient déjà là depuis une, deux générations et qui ne circulaient pas. Mais il y a d'autres endroits, mais les familles arrivaient pour scolariser leurs enfants. Ah ben non, c'était pas possible, il n'y avait pas de place. Les difficultés que rencontrent les voyageurs, bien d'autres personnes les rencontrent aussi. Mais on en tient compte. Alors que les gens du voyage, on ne les comptabilise pas. On n'en tient pas forcément compte. C'est ça qu'on veut. Il y a des gens du voyage qui vont pas aller frapper au bureau des assistantes sociales pour obtenir des aides parce qu'ils ont honte aussi. C'est aussi le problème de l'itinérant par rapport à la santé. On a besoin d'un médecin traitant, alors comment... Pour les gens qui sont itinérants, ils ne savent pas forcément où est-ce qu'ils vont tomber malades. S'ils ne sont pas là où ils ont leur médecin traitant, maintenant, se soigner, c'est dans des départements où on parle du désert médical. La Mayenne en fait un petit peu partie. Obtenir un rendez-vous et tout ça, ce n'est pas toujours simple. Ils délaissent un petit peu leur santé. Et chez les gens du voyage, il y a des problèmes de santé qui sont aussi un peu spécifiques à leur mode de vie. Pour les récupérateurs de métaux, par exemple, pendant longtemps, les problèmes de plomb, parce que ils récupéraient les métaux et tout ça, ils triaient, ceux qui faisaient les étains et tout ça, ils ne sont pas toujours au fait des protections, des risques encourus et tout ça, donc ça fait aussi partie de l'information qu'on donne aux voyageurs en faisant de la présence sociale sur les aires d'accueil. On échange avec les familles. Les problèmes de santé, il y a beaucoup de problèmes aussi sur la diététique aussi, tout ça. Donc il y a les professionnels qui sont là pour donner l'information, relayer sur les risques encourus et tout ça. Alors avec la Covid, là, il y a eu un partenariat qui s'est mis en place avec l'ARS, l'Agence régionale pour la santé. Donc la MAV a accompagné l'ARS sur les aires d'accueil sur Mayenne, Laval, Château-Gontier pour les gestes barrières et tout ça. Donc, il y a eu un accompagnement qui s'est mis en place et tout le monde y a trouvé son compte, quoi. À la fois l'ARS, parce que toute seule, elle ne serait peut-être pas allée sur les aires d'accueil. Et puis la MAV était un peu démunie par rapport à ça. Là, il y a eu un travail de partenariat qui s'est accéléré, on va dire, parce qu'il existait déjà, mais avec les partenaires locaux. L'ARS a d'autres moyens quand même.
Des séances de dépistage ont aussi été mises en place à la MAV et sur l'aire d'accueil de la Gaufrie à Laval. Autre changement avec la crise sanitaire, toutes les démarches administratives par téléphone prennent plus de temps. Et surtout, il a fallu relancer certaines familles pour que les enfants continuent d'aller à l'école. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association ou même pourquoi pas devenir bénévole, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook AMAV53 ou à les contacter par téléphone au 02 43 02 95 95. ou par mail à accueil@amav53.fr. On revient d'ici quelques minutes après avoir écouté Benny Sings avec le morceau My Favorite Game.
Alone, not made to fall the way down. Can you feel that things are getting better? Let's spend a lifetime. There's only one way out. Just close your eyes and bend it. You're making me feel so bend it. I'm taking the first flight. I'm leading my
de nous rejoindre, sachez donc que vous êtes bien ici sur l'autre radio dans l'émission L'Agité du local et on retrouve notre rendez-vous du vendredi autour du service civique qui ne nous fait pas voyager dans la région comme d'habitude puisque cette fois on reste en Mayenne du côté de Saint-Aignan-sur-Raux. L'EHPAD de la commune a engagé 3 services civiques pour les animations pour les résidents et malgré les conditions sanitaires actuelles, leurs missions n'ont pas beaucoup changé. C'est ce que nous explique l'un des volontaires, Antonin Marotte.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission ? Et quel constat du côté des structures accueillantes ? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Malgré le confinement, il poursuit son service civique. Antonin Marotte est volontaire depuis mi-août à l'EHPAD de Saint-Aignan-sur-Raux en Mayenne. En contact avec des personnes âgées au quotidien, il continue d'assurer sa mission d'animation, qui consiste en quoi d'ailleurs ?
Vu que je suis en animation dans cet EHPAD, créer des animations et les faire. Faire des transmissions dues à ces animations. Et par exemple, j'ai inventé un atelier connecté pour les personnes âgées, pour ceux qui veulent apprendre à utiliser un ordinateur. Et j'ai commencé cet atelier la semaine dernière. Et donc, c'est tous les mardis et jeudis. Bon, ça s'est super bien passé, vu que c'est des ateliers individuels et pas collectifs. Du coup, il y a plus de gestion, voilà, si on, et la personne comprend pas, je lui réexplique, etc. C'est vraiment du plus, quoi. Le matin, je fais des ateliers de vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on épluche des légumes pour la soupe du soir avec quelques personnes âgées, ce sont souvent des mamies, voilà. Alors, moi, j'avais déjà fait pas mal de stages, vu que j'étais en bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Et donc, j'avais fait déjà deux stages en maison de retraite et ça s'était super bien passé. Mon service civique me plaît beaucoup, oui. J'ai eu une affinité avec les personnes âgées, on dirait. L'intégration avec les personnes âgées, ça se fait souvent très vite, parce que faut juste être, pas les prendre pour des enfants, je dirais, et surtout être sympathique avec eux, toujours leur dire bonjour, être poli, etc. Et après, ça se fait très vite.
Avec le confinement et les restrictions sanitaires, est-ce que ça a des incidences sur votre activité au quotidien ?
Eh ben moi, ça ne joue pas beaucoup parce que tout se fait en interne. Et du coup, vu que c'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça change rien pour nous. Nous, on a opté pour que ce soit l'équipe qui prenne totalement la charge de le sanitaire et que les personnes âgées, elles, n'aient pas à porter le masque, à part quand elles ont des sorties obligatoires. Mais en intérieur, les personnes âgées n'ont pas de masque, vu qu'en fait, ils sont un peu confinés dans l'établissement. Du coup, personne ne côtoie l'extérieur pour les visites des familles, là où on a dû réglementer un peu plus. Mais donc, ça revient à une heure par semaine pour beaucoup de personnes âgées, alors que d'habitude, c'était 5-6 heures dans la journée où les familles venaient toute une après-midi. Oui, ça leur fait du bien de les voir. Et puis, ça joue beaucoup sur leur moral. Il y en a qui sont beaucoup plus renfermés sur eux, beaucoup plus tristes rapidement, un peu le cafard le soir, etc.
Antonin est en service civique depuis 3 mois désormais. Il voit déjà les bénéfices de son engagement.
J'ai appris à un peu grandir de moi-même dans mon coin et me dire « Ah, ça, c'était pas ouf. Il faudrait plus que je fasse ça la prochaine fois, etc. » Bah, moi, je suis en service civique jusqu'en avril, mais j'espère que ça va aller bien et qu'il n'y aura pas un confinement complet parce que sinon, on va devoir reconfiner les personnes âgées dans leur chambre, ce qui avait déjà été le cas pour le premier confinement. Que des animations personnelles et vu que du coup il faut qu'on passe chez tout le monde, ça sera des animations de 10-15 minutes. On a vraiment peur que ce soit un confinement total et que les personnes âgées soient obligées de rester dans leur chambre, de plus voir leur famille et de rester tout seul surtout.
Pour l'instant, il n'est pas question d'un confinement plus dur, alors Antonin Marotte, comme les deux autres volontaires, continue de donner le sourire aux résidents avec ses animations en groupe et poursuit, quoi qu'il en soit, son service civique.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une chronique à réécouter comme toutes les autres sur notre site internet l'autreradio.fr. Et on arrive déjà vers la fin de l'émission et en tout cas c'est le moment d'écouter la rubrique de Claire, la rubrique initiative et on commence aujourd'hui avec une permanence pour les Danais, Claire.
Et oui, pour préserver le lien social, la commission santé et cohésion sociale de la commune de Dun met en place une permanence physique et téléphonique. Ce sera un espace dédié à l'information sur l'évolution de la pandémie, les recommandations sur comment accompagner les personnes vulnérables. C'est donc tous les mardis de 14h30 à 17h en mairie ou au 02 43 06 94 10.
À Cran, les locaux de l'association Nulle part ailleurs restent ouverts.
Oui, et même avec une nouveauté, un compte Instagram pour suivre leurs activités au jour le jour et aussi échanger avec l'une des animatrices tous les mercredis et samedis de 17h à 18h. Les locaux sont ouverts aux jeunes tous les mercredis de midi à 18h pour diverses activités comme des jeux de cartes par exemple. Il y a aussi des temps d'échange par visio, ce qui pour le directeur Cédric Maillet
rester au maximum en contact avec les jeunes pour ne pas cesser la dynamique. Il y a aussi tous les samedis matins une rencontre en présentiel spéciale famille, une bonne occasion de discuter librement avec la référente famille Émilie Guyard. Pour plus de renseignements, contactez le 02 43 09 09 69.
Alors Claire, ça m'intrigue, vous voulez, enfin tu veux d'ailleurs, je te tutoie, on va pas faire semblant à l'antenne, hein. Tu veux nous parler d'un concert pas comme les autres, je croyais que les concerts étaient annulés.
Et oui, vous le savez, en plus des concerts annulés, les musées n'ont pas la possibilité de réouvrir, mais ça n'a pas empêché le musée archéologique de Jublin de maintenir ses événements, et oui, et notamment le concert de la jeune harpiste Charlène Épinal. Et ce concert sera diffusé via le compte Facebook du musée en live. Depuis son canapé, donc, on pourra apprécier le jeu et le chant de l'artiste. Rendez-vous ce dimanche 6 décembre à 17h sur le compte Facebook, donc Musée archéologique de Jublin, pour un moment juste unique.
Merci beaucoup Claire, en tout cas on a bien noté ce concert dimanche à 17h via Facebook. En parlant de compte Facebook, n'hésitez pas à nous suivre, un petit j'aime sur notre page L'Autre Radio, c'est possible, notre compte Twitter intitulé là aussi L'Autre Radio, on n'a pas été chercher très loin, c'est logique. Et puis notre répondeur est toujours là aussi pour partager vos initiatives, vos messages, nous contacter, n'hésitez pas à appeler donc le 09 70 40 59 40. Ça y est, on arrive à la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci beaucoup Claire.
Merci Marie, merci tout le monde. Et voilà, ça y est, vendredi déjà le week-end. À lundi.
Exactement, très beau week-end Claire, à lundi. Mais vous ne partez pas puisque sur L'Autre Radio, les émissions se poursuivent. À 19h, il y a l'agenda de Christophe, suivi à 20h de Passe-moi le thème, consacré ce vendredi aux musiques des années 70, minutieusement sélectionnées, vous l'entendrez. Et donc, comme Claire l'a très bien dit, on se retrouve nous à lundi à midi et quart. Je vous souhaite un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.